La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Le titre de cette présentation est « Trois jours et trois nuits ». Le texte de base de cette présentation est, se trouve tout du moins dans, en Matthieu 12, verset 40. Où allons-nous? Matthieu, c'est ça? 12, verset 40. 40. Voilà, 40. Et là, nous lisons ce que Jésus déclara. Car comme Jonas fut dans le ventre d'un grand poisson 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. À travers les siècles, les étudiants de la Bible ont été d'avis que Jésus mourut sur la croix l'après-midi du jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, et qu'il ressuscita le matin du premier jour suivant, c'est-à-dire le dimanche. Mais ces dernières années, certains ont exprimé l'idée que lorsque Christ déclara que le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits, cela signifie qu'il devrait rester 72 heures dans la tombe, à savoir 3 fois 24 heures. Ok? Et c'est sur cette affirmation que se fonde la théorie que l'on pourrait qualifier de la crucifixion du mercredi. D'accord? Ok, la théorie de la crucifixion du mercredi. Laquelle situe, d'accord? Bien évidemment, comme son nom l'indique, la crucifixion le mercredi. Et étant donné qu'il est compris que 3 jours, 3 nuits seraient 72 heures, eh bien, elle situe la résurrection du Christ le sabbat après-midi, d'accord? Et voici un graphique que j'ai pu trouver sur Internet, d'accord, qui illustre cette théorie, d'accord. Et c'est un graphique qui appartient à un ministère indépendant qui est, entre guillemets, ou tout du moins qui est rattaché à l'Église du Dieu vivant ou l'Église du Dieu restauré. Faudrait déterminer ça. En tout cas, ces deux mouvements-là ont des similitudes, d'ailleurs, ils ont des origines communes. Sur ce graphique, nous avons là, selon eux, la chronologie de la crucifixion et de la résurrection de Christ, d'accord? Pour eux, 3 jours et 3 nuits équivalent à 72 heures, qui selon eux prouvent que Jésus est le Messie, d'accord? Et comme vous le voyez, le mercredi, d'accord, Christ, aurait été crucifié. Et il aurait passé toute la journée du jeudi, du vendredi et du samedi dans la tombe. Et bien évidemment, il serait ressuscité peu de temps avant le coucher du soleil, le sabbat, donc le samedi pour nous. Okay? Et le dimanche, il y a encore d'autres éléments. Il est intéressant de noter une chose, d'accord? Et je vous invite à garder ça à l'esprit. C'est que ceux qui adhèrent à et qui font la promotion de cette théorie, d'accord, sont, d'accord, pour la plupart des observateurs du sabbat, d'accord. Et selon eux, cette vision, d'accord, de la chronologie de la crucifixion et de la résurrection du Christ, eh bien, serait le meilleur argument en faveur de l'observation du sabbat. Mais également le meilleur argument contre, d'accord, la sanctification du dimanche, d'accord. Donc selon eux, c'est cette vision-là qui, eh bien, réfute de manière indubitable, incontestable, que on ne peut pas sanctifier le dimanche puisque Jésus ne serait pas ressuscité le dimanche, d'accord. Mais mes amis, j'aimerais vous dire la chose suivante. Et je suis sûr qu'à la fin de cette présentation, vous allez comprendre ce que cela veut dire. nous devons accepter la vérité pour les bonnes raisons et rejeter l'erreur pour les bonnes raisons. Vous avez compris ça? Nous devons accepter la vérité pour les bonnes raisons et rejeter l'erreur pour les bonnes raisons. D'accord? Ça, c'est très important. La raison pour laquelle certains arrivent à cette conclusion est qu'ils lisent la Bible avec une pensée occidentale. En effet, en Occident, lorsque nous parlons de 3 jours après un événement, nous entendons par là 3 jours complets ou plus. Mais tel n'est pas le cas au Proche-Orient, mes amis, notamment chez les Hébreux. Ainsi, lorsque nous lisons 3 jours et 3 nuits dans la Bible, nous ne devons pas chercher à savoir ce que cela signifie en Occident, mais ce que Jésus voulait dire et ce que ses auditeurs ont compris de ce qu'il a dit. Lorsque Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection, il employa d'autres expressions à la place de celle des 3 jours et 3 nuits, comme vous pouvez le constater sur ce tableau, d'accord, sur ce graphique qui contient un tableau, d'accord. Là, nous voyons que il y a en réalité une période et différentes expressions, d'accord. Et donc, le tableau vous retranscrit et vous classe ces différentes expressions telles qu'elles se trouvent réparties à travers les 4 évangiles, d'accord. Ok. Et nous allons considérer quelques... Alors, je vais les citer, ok, pour l'enregistrement. Mais nous n'allons pas tous les prendre. Je vous inviterai à faire un travail personnel pour bien considérer tous ces points-là, d'accord. Mais nous allons prendre minimum un texte de chaque pour bien vous rendre compte que Jésus parle d'une même période, mais avec différentes expressions, d'accord. Par exemple... Il y a l'expression « dans » ou « en 3 jours », d'accord ?« Dans 3 jours » ou « en 3 jours », qui se trouve en Matthieu 26, verset 61, Matthieu 27, verset 40, Marc 14, verset 58 et Jean 2, verset 19 à 21. Et je vous invite à prendre un texte en Matthieu 26, verset 61, d'accord ? Parce que nous avons beaucoup de matériel à considérer. Et je ne souhaite pas aller au-delà du temps qui m'est imparti, d'accord ? Je sais que parfois je le fais et ce n'est pas... il faut essayer de respecter le temps. Et Matthieu 26, verset 61, là il est dit, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir dans 3 jours. » D'accord ? Donc voilà ce que les auditeurs ont compris. Que cela serait dans 3 jours, d'accord? Et là, c'est un texte que nous lisons où on nous rapporte les paroles où justement les auditeurs de Jésus rapportent ce qu'il a dit. Mais j'aimerais que nous puissions prendre un texte où c'est Jésus lui-même qui le dit, pour que vous puissiez bien comprendre qu'ils ont compris cela parce que Jésus lui-même l'a dit en réalité. D'accord? Et parmi les 4 textes qui sont dans la colonne, dans la première colonne, je vous invite à prendre Jean 2, verset 19 et 19 à 21. Jean 2, et de mémoire, je crois que c'est ce texte-là où c'est Jésus qui en parle. Jean 2, 19 à 21. Et là, il est dit, Jésus répondit et leur dit, « Abattez ce temple et je le relèverai dans 3 jours. » D'accord ? Dans 3 jours. Les Juifs lui disent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple et tu le relèveras dans 3 jours. » Mais il parlait du temple de son corps. D'accord ? Alors ici, en fait, en Matthieu 26, verset 61, il s'agit dans, et traduit à partir du terme grec « dia ». Okay? Et ici, en Jean 2, verset 19 à 21, il s'agit du terme « en », d'accord, qui est traduit par « dans ». Donc, il y a 2 termes, d'accord, grecs différents, qui peuvent être traduits par « dans », en fait, d'accord. Et parmi les quatre textes qui sont là, Matthieu 26, verset 61, il s'agit de dia. Matthieu 27, verset 40, il s'agit de en. Marc 14, verset 58, il s'agit de dia. Et Jean 2, 19 à 21, il s'agit de en. OK? Donc, voilà ce que Jésus déclara. D'accord? Jésus employa l'expression « dans trois jours ». OK? Et bien évidemment, les gens qui ont rapporté ce qu'il a dit ont attesté qu'il a dit « dans trois jours ». OK? D'accord. Et maintenant, considérons la deuxième colonne, les textes de la deuxième colonne, et rendons-nous en Matthieu 27, verset 63, pour nous rendre compte de la chose suivante. Matthieu 27, verset 63. Et je vais vous lire ce qui est noté dans ma version, la Osterwald 1996. D'accord? Matthieu 27, verset 63. Et là, il est dit, et lui dire, Seigneur, nous nous souvenons que quand ce séducteur vivait, il disait, je ressusciterai dans trois jours. Dans ma version, il est question de dans, d'accord? Mais c'est ce que le traducteur a retranscrit, d'accord? Mais ici, il n'est pas question de dia ou de en. Il est question de méta, d'accord? Méta qui, en Marc 8, verset 31, est traduit par « après », d'accord? Et c'est ce que nous dit la hausse de la Darby, la Louis II 1910 et la Louis II 21. Si vous en avez, vous voyez que c'est marqué en réel. Et il lui dit « Seigneur, nous avons, tout du moins, nous nous souvenons que quand ce séducteur vivait, il disait « Je ressusciterai alors, après trois jours ». Alors, désolé, là, Jean-Claude et la Osterwald. La Darby dit ça, elle dit ce qui suit, disant, Seigneur, si il nous souvient que ce séducteur, pendant qu'il était encore en vie, disait, après trois jours, je ressuscite. D'accord? Et dans la Osterwald, en Marc 8, verset 31, remarquez ce que je vous disais tout à l'heure, remarquez comment méta est traduit, d'accord? Marc, ok, 8, verset 31, et je vous préviens, cette présentation va être assez technique, d'accord? Mais vous allez comprendre l'importance qu'il y a à bien saisir ces choses, notamment à la fin de la présentation. Alors, j'espère que vous n'avez pas trop mangé ce matin, d'accord? Et que vous vous êtes bien reposé durant la semaine, parce que ce n'est surtout pas le moment, comme vous le savez, de bâiller, de s'endormir, ok? Ok, nous sommes, c'est le repos de l'Éternel, le sabbat de l'Éternel, le repos, oui. Repos physique, mais aussi spirituel. Et si on ne fait que dormir, on ne pourra pas spirituellement se ressourcer. OK. Alors, si votre voisin, votre voisine s'endort, un petit coup de coude amical et c'est il va ça. Se réveiller. OK. Alors, Marc 8, verset 31. Et il est dit, alors, il commença alors à apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes et qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita trois jours après, d'accord? Là, c'est méta, ok? Donc, voilà, arrivé ici, nous avons constaté que Jésus parlait de, en tout cas, la Bible nous parle de dans trois jours, en trois jours, mais également après trois jours, ok? Mais ce n'est pas tout, car il y a aussi une troisième expression qui est le troisième jour, d'accord? Et remarquons cela en Matthieu 16, verset 21. Matthieu 16, verset 21. Comme je vous l'ai dit, nous n'allons pas prendre tous les versets parce qu'il y a beaucoup de matériel à considérer, mais je vous laisse le soin de pouvoir reprendre ça chez vous après, d'accord, à la maison, et que vous puissiez bien vous approprier ce que nous allons voir en ce matin par la suite, d'accord. Matthieu 16, verset 21, là il est dit, dès lors, Jésus commença à déclarer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il y fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc, c'est ce que Jésus déclara. OK? C'est ce que Jésus déclara. Et par exemple, en Matthieu 17, verset 23, pareil, il dit « Et ils le feront mourir et il ressuscitera le troisième jour. » D'accord? Matthieu 27, verset 64, je regarde rapidement. Voilà, c'est ça. Et remarquez, là, ils ont déclaré, d'accord, commande donc que le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au troisième jour, d'accord, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et n'enlèvent son corps et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première, d'accord? Parce que, pourquoi ils ont dit jusqu'au troisième jour? Parce qu'ils avaient entendu qu'il avait dit le troisième jour, d'accord? Et vous pouvez encore voir, il y a d'autres textes, d'accord, où les disciples eux-mêmes l'ont déclaré. D'ailleurs, au passage, nous allons considérer maintenant des textes qui ne sont pas dans les évangiles. Mais avant de faire cela, je tiens à vous dire que le terme qui est traduit par « le », dans l'expression « le troisième jour », le terme grec est « ho », d'accord? Et lorsqu'il est question de « le troisième jour » ou « jusqu'au troisième jour », en grec, le terme « ho » est présent dans tous les textes, qui sont affichés, qui sont présentés dans la troisième colonne, d'accord? Et il n'y a qu'une seule fois où le terme « ho » n'est pas présent, c'est en... Je vous dis lequel? C'est en... Alors, c'est bizarre parce que je ne l'ai pas noté ici, mais il y a un texte. Voilà, c'est en Luc 24, au verset 21, où il n'y a pas « ho », mais il est à sa morphologie est accusative, d'accord? Donc, cela implique qu'il est bien défini, d'accord? Donc, on peut le traduire par « le troisième jour », bien que « ho » ne soit pas présent, ok? Donc, fin de la parenthèse à cette technique-là. Maintenant, considérons d'autres textes, d'accord, qui ne sont pas affiché sur ce tableau. Rendons-nous, par exemple, en Acte 10, verset 40, pour voir que les disciples, okay, une fois qu'ils ont été revêtus de l'Esprit, de la puissance d'en haut, eh bien, ce qu'ils ont enseigné, d'accord, et ce qu'ils ont compris de ce que Jésus avait dit et vécu. Okay. Acte 10, verset 40, là, il est dit, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se faire voir. D'accord? Comme il est dit dans ma version. D'accord? Et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 15, verset 4, que je vous donne en référence, a dit, et, en parlant de Jésus, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. D'accord? Donc, ici, nous voyons que en Matthieu 12, verset 40, Jésus parla de 3 jours et de 3 nuits. Mais ailleurs, il a fait référence à cette période de temps, ok, avec des expressions différentes, d'accord? Dans 3 jours, en 3 jours. Après 3 jours, mais également le troisième jour, d'accord? Combien d'entre vous être convaincu que Jésus n'est pas un imposteur? Ok. Combien d'entre vous êtes convaincu que Jésus a enseigné la vérité et que Jésus ne se contredisait pas? Moi, je le crois. D'accord? Donc, nous devons comprendre que Jésus était en train de préciser quelque chose, en fait. D'accord? Mais ce que nous avons besoin de réaliser, comme je le disais précédemment, c'est ce que les Juifs entendait, d'accord, par cette expression, et plus précisément, la manière dont les Juifs, les Hébreux calculaient, d'accord. Nous avons besoin de comprendre, eh bien, le calcul inclusif. La méthode de calcul hébraïque est inclusive, mes amis, c'est-à-dire qu'elle inclut tant le jour ou l'année de départ que celui de fin, d'accord, ou d'arrivée. Je reprends. La méthode de calcul des Hébreux est une méthode inclusive, c'est-à-dire qu'elle inclut tant le jour de départ, lorsque vous avez une période de temps, elle inclut tant le jour de départ que le jour d'arrivée, ou l'année de départ ou l'année d'arrivée. D'accord? Et ce, quelle que soit la longueur de cette période. Ça peut être sur plusieurs années, comme ça peut être sur 3 jours, c'est la même chose en fait. D'accord? Prenons quelques exemples. Le siège de Samarie par Salmanazar en 2 Rois 18, versets 9 et 10. Rendons-nous en 2 Rois 2 Rois 18, versets 9 et 10. Et là, je lirai 2 Rois 18, 9 et 10. Et là, il est dit, « Or, il arriva la quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, que Salmanézer, roi des Assyriens, monta contre Samarie et la siégea. Au bout de 3 ans, ils la prirent. La sixième année du roi d'Ézéchias, qui était la neuvième d'Osée, roi d'Israël, Samarie fut prise. » D'accord? Notez ici que le siège de Samarie commença la quatrième année du règne d'Ézéchias, qui correspondait à la septième année du règne d'Osée. Et il se termina la sixième année du règne d'Ézéchias, qui correspondait à la neuvième année du règne d'Osée. Et voyez-vous, si le texte n'avait pas donné davantage d'informations, les Occidentaux que nous sommes auraient conclu que le siège dura 2 ans, puisque 6 moins 4 est égal à 2, et 9 moins 7 est égal à 2. Et parce qu'on compte, quand on est lors de la quatrième année, on ne compte pas l'année dans laquelle on est. On compte à partir de la cinquième et sixième, l'année d'arrivée. On ne compte jamais l'année de départ, d'accord? Ok? Donc pour nous, ça aurait été un règne de 2 ans. Mais le texte, voyez-vous, ne vient pas caresser la pensée occidentale. Parce que le texte ne connaît pas la pensée occidentale, d'accord? Le texte ne s'arrête pas. En fait, il ne s'arrête pas là. Car il précise que la ville fut prise au bout de 3 ans. D'accord? Ce qui atteste que le calcul hébraïque était inclusif, à savoir 4, 5, 6. OK? Un deuxième exemple maintenant, celui de l'âge. D'accord? En Occident, l'âge d'un être vivant est l'âge acquis et pas l'âge en cours d'acquisition. D'accord? Par exemple, nous considérons qu'un enfant a 1 an lorsqu'il a atteint le 12e mois après sa naissance, okay? Qu'il a 2 ans lorsqu'il a atteint le 24e mois après sa naissance, etc. D'accord? En clair, tant qu'il n'a pas atteint la date de son premier anniversaire, il n'a pas encore 1 an. Alors en fait, tant qu'il n'a pas atteint la date de son deuxième anniversaire, il n'a pas encore 2 ans. D'accord? Donc voilà comment en Occident nous considérons, d'accord, l'âge et que nous calculons l'âge. Mais voyez-vous, mes amis, il n'en est pas de même dans la Bible, d'accord? La Bible ne va pas dans le sens de la pensée occidentale. Et l'exemple que je vous inviterai à prendre, c'est celui de Noé, d'accord? Prenons l'exemple de Noé. Rendons-nous en Genèse 7, versets 6 et 11. Genèse 7, versets 6 et 11. Genèse 7, versets 6 et 11. Il est dit, « Or Noé était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu et que les eaux vinrent sur la terre. » Verset 11, « Et l'an 600 de la vie de Noé, est-il dit, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bandes des cieux s'ouvrirent. » D'accord? Ces versets nous montrent que dans sa 600e année, Noé avait déjà 600 ans. Et pas 599 ans, comme le voudrait notre pensée occidentale. D'accord? Ainsi, Noé était âgé de 600 ans dans la 600e année de sa vie. D'accord? Et un autre exemple, un troisième exemple, est celui de la circoncision. Alors, très précisément, celui de, dans le point de l'âge, on a considéré petit a, Noé. Maintenant, en petit b, on va considérer la circoncision. D'accord ? Rendons-nous en Genèse 17, verset 12. Où allons-nous ? C'est exact. Genèse 17, verset 12. Et là, il est dit, à l'âge de 8 jours, remarquez, hein, à l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis parmi vous. D'accord ? Donc, les nourrissons hébreux devaient être circoncis à l'âge de 8 jours. Ce qui, ailleurs, est déclaré comme devant avoir lieu le 8e jour, selon ce que nous lisons en Lévitique 12, verset 3. Lévitique 12, verset 3. Et le 8e jour, on circoncira la chair du prépuce de l'enfant. D'accord ? Et on retrouve également cela en Luc. Et je vous invite à prendre ce deuxième texte de confirmation, puisque depuis là, nous allons rebondir encore dans un autre passage de Luc. Luc 1, verset 59, où il est dit, « Et étant venu le 8e jour pour circoncire le petit enfant, il l'appelait Zacharie du nom de son père. » D'accord ? Donc, ici, nous voyons que cela avait lieu le 8e jour, d'accord ? Mais pas que. Ce n'est pas uniquement que de ces deux manières-là dont le texte s'exprime concernant la circoncision. Car il est également dit « lorsque 8 jours avaient été accomplis », selon ce que nous lisons en Luc 2, verset 21. Luc 2, verset 21. Là, on a là une troisième expression, d'accord ? Luc 2, verset 21. Où il est dit, quand les 8 jours furent accomplis pour circoncire l'enfant, il fut appelé Jésus, nom qui lui avait été donné par l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. D'accord ? Donc, on voit que, âgé de 8 jours, le 8e jour, et comme il est dit ici, lorsque les 8 jours furent accomplis. D'accord ? Et un petit c, d'accord ? Un petit c, ou cela pourrait être même un troisième point, mais en tout cas, la Bible, voyez-vous, ne s'arrête pas là, car elle nous donne d'autres périodes de 3 jours. En effet, elle énumère plusieurs périodes de 3 jours qui se terminent durant et pas après le 3e jour, ce qui couvre moins de 72 heures. OK, rendons-nous en Genèse 42. Genèse 42. Verset, et lisons du verset 17 à 19. Genèse 42, verset 17 à 19. Et il est dit, « Et il les fit mettre ensemble en prison pour 3 jours. Et au 3e jour, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. » Et au 3e jour, est-il dit, d'accord ? Pour 3 jours, hein ? Mais remarquez, au 3e jour, OK, Joseph leur dit, « Faites ceci et vous vivrez. Je crains Dieu. » D'accord ? Si vous êtes des gens de bien, que l'un de vous, votre frère, reste lié dans votre prison et vous allez emporter du blé pour subvenir à la famine de vos maisons. D'accord ? Et prenons un autre exemple et un dernier dans cette partie qui sera un roi, chapitre 12, versets 5 et 12. Un roi, chapitre 12, versets 5 et 12. Un roi 12, versets 5 et 12. Et là, il est dit, d'accord, et il leur dit, et il leur répondit, allez, donc après que Jéroboam et le peuple soient venus vers lui, allez, et dans 3 jours, revenez vers moi. Ainsi, le peuple s'en alla. Donc, notez, d'accord, notez que là, il déclara « Allez et dans 3 jours, revenez vers moi. » Ok. Et remarquez comment ils ont compris cela et comment ils ont obéi à ce qu'il leur a dit au verset 12. 3 jours après, Jéroboam, avec tout le peuple, vint vers Roboam. Et comme si ce n'était pas suffisant, le texte nous dit, suivant ce que le roi leur avait dit, revenez vers moi dans 3 jours. OK? Donc là, il est archi clair, bien aimé, cher ami, que dans la pensée hébraïque, OK, le calcul est inclusif, d'accord? Lorsque on dit, comme nous l'avons vu dans le tableau tout à l'heure, lorsque l'on parle de dans 3 jours, c'est la même chose pour eux qu'après 3 jours. Et cela signifie en fait le 3e jour, d'accord? C'est clair, il n'y a pas lieu de se méprendre ici, d'accord? Et au passage, ce texte de l'épisode entre Jéroboam et Roboam se trouve également rapporté en 2 Chroniques 10, versets 5 et 12. Donc les mêmes versets, mais un autre livre et un autre chapitre. Le calcul inclusif, voyez-vous, n'était pas propre aux Hébreux. En effet, les Égyptiens, les Grecs et les Romains employaient également cette méthode, d'accord? Et elle est encore employée aujourd'hui même dans l'Extrême-Orient, d'accord? Ainsi, étant donné que la coutume du calcul inclusif était en vigueur pour les Hébreux, pour d'autres nations anciennes, ainsi que dans l'Extrême-Orient encore aujourd'hui, il serait déraisonnable de comprendre les paroles de Jésus concernant une période de 3 jours comme signifiant 72 heures. Comme, et ce comme le voudrait, la méthode de calcul occidentale moderne que nous utilisons ici, notamment en France. Nous ne pouvons pas conclure que lorsque Jésus déclara qu'il ressusciterait après 3 jours, selon ce qu'il est dit en Marc 8, verset 31, que cela serait après la fin du 3e jour. Autrement dit, après 72 heures. Et voyez-vous, c'est afin d'éviter cette contradiction, d'accord? C'est pour ne pas arriver, ok, à conclure cela, que les partisans de la théorie de la crucifixion du mercredi disent que Jésus ressuscita peu avant le coucher du soleil le samedi. Ce qui, comme nous le verrons dans un instant, est erroné. Mais quand bien même, elle serait logique. Nous ne devons pas nous contenter d'une déduction pour déterminer ce que Jésus voulait dire par le 3e jour. Car notre Seigneur nous a lui-même dit ce que cela signifiait. Rendons-nous en Luc 13 et considérons le verset 32 et 33. Luc, chapitre 13, versets 32 et 33. Et il leur dit, « Allez et dites à ce renard. » Et c'est Jésus qui déclare ça concernant Hérode, d'accord? Dites à ce renard, ok, voici, je chasse les démons et j'achève de faire des guérisons aujourd'hui et demain et le 3e jour, je finis. Cependant, il me faut marcher aujourd'hui, demain et le jour suivant parce qu'il n'arrive point qu'un prophète meure hors de Jérusalem. D'accord? Ainsi, Jésus assimilait le 3e jour au jour après le lendemain.
D'accord.
Le troisième jour étant ici compté de manière, comme nous l'avons vu ailleurs, inclusif. Maintenant, j'aimerais que nous considérions le jour de la résurrection. Après avoir validé le principe du calcul inclusif, nous pourrions nous poser la question de quel jour à quel jour la prophétie des trois jours s'est-elle accomplie? Et quand s'est-elle notamment terminée? La réponse nous est très clairement apportée en Marc chapitre 16 et au verset 9. Marc chapitre 16 et au verset 9. Et là, il est dit en Marc 16 et au verset 9. Or, Jésus étant ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, apparut premièrement à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. D'accord? Dans la version Ostrava, le mot jour est en italique. Ce qui signifie en fait que le traducteur, en fait, en mettant en italique, le traducteur nous indique que c'est lui qui a rajouté le mot pour la compréhension, mais qu'il n'est pas dans le texte original grec. D'accord? Et même en hébreu, c'est pareil. Donc ainsi, or, Jésus étant ressuscité, et même le mot Jésus est rajouté, or, étant ressuscité le matin, le premier de la semaine. Mes amis, lorsqu'on lit le texte grec de manière littérale, Jésus est ressuscité le premier matin de la semaine. Wow! Le premier matin de la semaine, ok? Contrairement à ce que nous dit la théorie de la crucifixion du mercredi, Jésus n'est pas ressuscité peu de temps avant le coucher du soleil le samedi, mais le premier jour de la semaine. Et cela est confirmé en Luc 24, verset 1. Et ensuite, on y lira le verset 13. Alors, Luc 24, verset 1, où il est dit, « Mais le premier jour de la semaine, d'accord, elles vinrent de grand matin au sépulcre, apportant les parfums qu'elles avaient préparés et quelques personnes les accompagnaient. » D'accord? Et notez maintenant le verset 13. Ce jour-là même, deux d'entre eux s'en allaient à un bourg nommé Emmaüs qui était éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et notez comment les disciples désappointés ont lié ce premier jour de la semaine à la prophétie. Au verset 21 maintenant. Luc 24, verset 21. Pour nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et cependant, voici le troisième jour depuis que ces choses sont arrivées.
Amen. Amen.
Voyez-vous, arrivé ici, on pourrait vouloir continuer à contester, d'accord? Mais mes amis, on a l'affaire à des Hébreux. Ok? Ils savent compter les jours, en fait. Ils savent compter les choses, en fait. Mais là, leur problème, comme on va le voir à la fin, c'est qu'ils n'avaient pas compris ce qui devait se passer. Ils avaient compris que... Ils savaient reconnaître que c'était le troisième jour, mais ils n'avaient pas compris ce qui devait se passer, en fait. D'accord? Et ils n'avaient pas compris ce que Jésus avait dit concernant ce jour-là. Et Jésus lui-même déclara la même chose lorsqu'il apparut aux douze dans la chambre haute au verset 46 du même chapitre. Et il leur dit, ainsi est-il écrit, et ainsi fallait-il que le Christ souffrît et qu'il ressuscita des morts le troisième jour. D'accord? Là, nous avons jusqu'ici développé cet enseignement, cette doctrine, sur une base biblique. OK? OK. Maintenant, il se pourrait que certains d'entre vous, OK, pour parler ainsi, reconnaissent que le ministère, que le don de prophétie a été manifesté dans le ministère d'Ellen G. White. D'accord? Et vraiment, si vous n'êtes pas d'accord, arrivez ici avec ce que nous avons dit, OK, avec la Bible, mais que vous pensez que Ellen White a enseigné le contraire, d'accord, concernant le jour de la résurrection, alors je pense que cette déclaration devrait vous être utile. En effet, dans The SGA Bible Commentary, volume 5, à la page, donc la page 1173, paragraphe 1, « Christ se reposa dans la tombe le sabbat. Et quand les êtres saints, tant dans le ciel que sur la terre, étaient en activité le matin du premier jour de la semaine, il sortit de la tombe pour renouveler la tâche d'enseigner ses disciples. » D'après cette déclaration, quel jour de la semaine que Jésus est sorti du tombeau? Quel jour qu'il est ressuscité? Le premier jour de la semaine, mes amis. Alors, une fois que nous savons quand est-ce que cette prophétie des trois jours se termine, intéressons-nous à présent à son départ. Quel jour qu'elle commence? D'accord? Alors, la déduction est logique. Mais, étant donné que certains comprennent qu'il s'agit de 72 heures, ça nous fait remonter à plusieurs jours en arrière. Quel était le jour de la crucifixion, étant donné que le dimanche était le troisième jour? Il ne fait aucun doute. Lorsque l'on considère et qu'on accepte le calcul inclusif, que ce fut le vendredi, le jour précédent le sabbat. Remarquons ce qui nous est dit en Luc 23, et verset 54 jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 1er du chapitre suivant. Et là, il est dit, « Et l'ayant descendu de la croix, il l'enveloppa d'un linceul et le mit dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Et les femmes qui étaient venues de Galilée avec Jésus, ayant suivi Joseph, remarquèrent le sépulcre et comment le corps de Jésus y fut placé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums et elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. » D'accord? Il est clair que c'est le jour de la préparation, d'accord, que Jésus a été descendu de la croix et donc qu'il est forcément mort avant, en fait. Okay? Là encore, nous venons d'établir cela avec la Bible. D'accord? Et si toutefois, certains ne seraient pas d'accord et qu'ils acceptent le ministère d'Ellen White comme ayant été caractérisé par le don de prophétie, eh bien, je vous invite à considérer les deux déclarations suivantes. Dans manuscrit 25 de l'année 1898, paragraphe 11. Et au passage, notez que c'est cette année-là que Ellen White, au passage, entre parenthèses, notez que c'est cette année-là que Ellen White publia la version anglaise de Jésus-Christ, c'est-à-dire « Desires of Ages ». D'accord? Dans laquelle elle parle de la troisième personne de la divinité, d'accord? Que beaucoup prennent pour défendre la Trinité. Comment est-ce qu'elle déclare? Et vous pouvez aussi le comparer dans le livre Maranatha à la date du 29 décembre. Le livre Maranatha qui est un livre de méditation. Alors, Maranatha à la date du 29 décembre. Vous notez et vous pouvez le comparer. Le paragraphe est présent, je l'ai vu. Enfin, c'est en anglais, je l'ai vu. Notez, hein, elle dit « Le Père et le Fils se reposèrent après leur œuvre de création. » Point. OK? Et après, elle cite, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. » Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre. Et là, elle termine la citation. La mort du Christ devait avoir lieu au moment même où elle se produisit. C'était dans le plan de Dieu que l'œuvre que Christ s'était engagé à accomplir soit achevée un vendredi et qu'il se repose le jour du sabbat, comme le Père et le Fils s'étaient reposés après avoir achevé leur œuvre créatrice. D'accord? Donc, ici, la Trinité, c'est ça? Non! Ici, Madame White nous dit que la divinité, à savoir le Père et le Fils, d'accord, se sont reposés après qu'ils aient créé. Et il entrait dans le plan de Dieu que Jésus, d'accord, eh bien, que toute l'œuvre de Jésus soit achevée un vendredi, d'accord? Eh oui, puisqu'il devait passer le sabbat dans la tombe, ok? Mais ce n'est pas tout, il y a un deuxième texte dans Christ Triumphant, à la page 295, paragraphe 3. Christ triomphant, si je le francise pour vous. C'est un ouvrage que je crois aussi a été traduit en français, d'accord? Je ne suis pas trop sûr après de... Mais en tout cas, je vous le donne en anglais. Mais les disciples semblaient toujours incroyants. Leur espérance était morte avec Christ. Et quand la nouvelle de sa résurrection leur fut apportée, elle était si différente de ce à quoi ils s'attendaient qu'ils ne purent pas y croire. Par l'entremise des témoins oculaires, certains disciples avaient obtenu un compte-rendu assez complet des événements du vendredi. D'autres virent de leurs propres yeux les scènes de la crucifixion. Il est manifeste ici que la messagère, pour la messagère, le jour de la crucifixion, était bien le vendredi. D'accord? Donc, si nous résumons, la Bible ainsi que l'Esprit de la prophétie nous disent que la résurrection a eu lieu un dimanche, très tôt le matin, et que la crucifixion a eu lieu le vendredi. D'accord? Ce qui s'accorde avec ce que nous dit le texte, la Bible, en fait. Parce que c'est comme ça que les Juifs calculaient. Leur méthode était inclusive, d'accord? Les partisans de la théorie de la crucifixion du mercredi affirment que les femmes auraient en fait attendu plusieurs jours avant de se rendre au tombeau. Car, disent-ils, le sabbat. Et c'est là que ça se corse. C'est que, pour eux, le sabbat mentionné en Luc 23, d'accord, eh bien, serait en réalité le sabbat cérémoniel de la Pâque qui tomba le jeudi. D'accord? Mes amis, à ce stade, nous devons réaliser que les services du sanctuaire terrestre étaient une préfiguration, d'accord, de l'œuvre et du ministère du Christ, n'est-ce pas? D'accord. Et voyez-vous, lorsque nous étudions les symboles, les types, eh bien, cela jette de la lumière sur la réalité, d'accord? Par conséquent, la crucifixion, la mort et la résurrection du Christ, eh bien, ont été prédits à travers les symboles et les types. Et donc, lorsque nous sommes en mesure de bien comprendre ces types, nous sommes alors en mesure de bien comprendre à quoi nous attendre lorsque la réalité arrive. D'accord? Comme j'ai pu le dire lors de la présentation de la semaine dernière, qui était intitulée l'Épître aux Hébreux, où Christ est-il allé après son ascension? Lorsque je marche et que j'ai le soleil dans mon dos, il y a mon ombre, en fait. Il y a mon ombre. Ce n'est pas un éléphant que vous allez voir à terre, là, au sol, ok? c'est pas un chien, c'est pas un lion, c'est pas un guépard. Vous allez voir mon ombre, en fait. D'accord? Ok? Parce que c'est ça, en fait. Par conséquent, lorsque vous voyez mon ombre, imaginons qu'il y a un mur ici et que vous voyez l'ombre, mais que vous ne me voyez pas encore, en voyant l'ombre, vous allez vous attendre déjà à voir un être humain, mais en plus à voir, ok, un homme, mais vous n'allez pas vous attendre à voir un éléphant, un guépard, un lion, non! D'accord. Mes amis, lorsque nous étudions les types, d'accord, nous savons à quoi nous attendre. On n'a peut-être pas tous les détails, toutes les finitions, mais on sait à quoi s'attendre, mes amis. D'accord? Et encore une fois, remarquez ce graphique. D'accord? Ce graphique qui est le produit de partisans de la théorie des 72 heures. Des 3 jours, 3 nuits qui ne sont pas inclusifs, donc 72 heures. Et donc, nous allons voir maintenant qu'en fait, ce graphique, mes amis, ok, est le fruit, en fait, d'une négligence totale, d'accord, de l'enseignement que nous apportent les fêtes juives sous la vie du Christ, en fait. Total. Ok. Considérons, afin de comprendre pourquoi le sabbat cérémoniel de Pâques ne pouvait pas tomber le jeudi, Jean 19, verset 31. On va commencer avec ce texte-là. Jean 19, verset 31. Comment on appelle les adventistes du sixième jour? Le peuple du reste. Le peuple du reste, ouais. Le peuple du livre, mes amis. Le peuple du livre.
Ah,
j'aime bien. Ah, le peuple du livre. Eh oui, le peuple du livre, mes amis. Donc, on devrait être en mesure, d'accord, de pouvoir, eh bien, apporter une saine doctrine, puisque normalement, ok, normalement, nous sommes censés être le peuple du livre. Alors, mais bien que certains et la majorité ont choisi plutôt la tradition, d'accord, mais mes amis, la véritable église du reste doit toujours être le peuple du livre. Et en Jean 19, verset 31, il est dit: Or, les Juifs, de peur que le corps ne demeurasse sur la croix le jour du sabbat, car c'était la préparation. Et notez bien, et ce sabbat était un grand jour. Ok? Demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enleva. Ce sabbat, est-il dit, était un grand jour. En précisant que ce sabbat était un grand jour, Jean nous indique que cette année-là, le sabbat cérémoniel de la Pâque tombait le même jour que le sabbat hebdomadaire. Mes amis, j'ai eu l'occasion de réaliser une série d'études complètes sur les fêtes juives. D'accord? Et ce graphique, certains d'entre vous l'ont déjà vu, illustre les fêtes juives dans le type et dans l'antitype. D'accord? Nous avons besoin, et devrais-je dire, lorsque nous étudions les fêtes juives, nous rendons compte que les fêtes du printemps, d'accord, à savoir Pâques, pain sans levain, prémices, moissons, eh bien, ont été accomplies au début de l'ère chrétienne, d'accord. Tandis que les fêtes de l'automne, ok, la fête des trompettes, ok, le jour des expiations et la fête des tabernacles, d'accord, eh bien, elles ont été accomplies et il en reste une à accomplir, c'est celle des tabernacles, eh bien, à la fin de l'ère chrétienne. Okay? La fête des trompettes étant illustrant le mouvement millérite qui annonce le message du premier ange, okay? Qui est en fait l'invitation de Dieu pour se préparer au jugement, d'accord, qui commence le 22 octobre 1844 avec le message du troisième ange. Mais le jour des expiations est illustré le jugement investigatif ainsi que la purification du sanctuaire céleste et la fête des tabernacles, quant à elle, la seconde venue et l'enlèvement. D'accord? Des saints. Donc, j'aimerais que nous considérions, okay, les trois premières solennités, les trois premières fêtes, d'accord? Rendons-nous en Lévitique 23 et considérons à partir du verset 5. Lisons à partir du verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, sera la Pâque de l'Éternel. Et alors, déjà ici, remarquez que là, il est question du 14e jour du premier mois. D'accord? Devait avoir lieu quoi? La Pâque. En 1 Corinthiens 5, verset 7, l'apôtre Paul nous dit que Christ, notre Pâque, a été immolé. D'accord? Donc, Christ devait être crucifié le 14e jour du premier mois. OK? D'accord. Poursuivons avec Lévitique 23 et lisons le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, donc le lendemain, sera la fête des pains sans levain à l'Éternel. Vous mangerez des pains sans levain pendant 7 jours. Donc là, le 15e jour du premier mois, le lendemain du 14e jour, le lendemain de la Pâque, devait avoir lieu la fête des pains sans levain. D'accord? Qui, toujours d'après l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 5, versets 7 et 8, eh bien, préfigure en fait la mort du Christ. D'accord? Maintenant, lisons Lévitique 23, versets 10 et 11. Lévitique 23, versets 10 et 11. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez entrés au pays que je vous donne et que vous en ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Et il agitera devant l'Éternel afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur l'agitera le lendemain du sabbat. D'accord? Et le sabbat dont on parle ici, OK? Et le sabbat cérémoniel, d'accord? Le sabbat, justement, des pains, de la fête des pains sans levain, en fait. D'accord? Par conséquent, cette gerbe était agitée le 3e jour, le 16e jour du premier mois. Par conséquent, ce que nous venons de montrer ici est que la Pâque avait lieu le 14e jour du premier mois, la fête des pains sans levain, OK, avait lieu le 15e jour du premier mois, et la fête des prémices, d'accord, la gerbe agitée, devait avoir lieu le 16e jour. De ce fait, la crucifixion du Christ devait être le 14e jour du premier mois. Sa mort devait avoir lieu complètement durant le 15e jour. Et sa résurrection devait avoir lieu, quant à elle, le 16e jour. Cela se passe sur 3 jours, mes amis. Pas sur 4 jours. Cela se passe sur 3 jours. La Bible, elle est claire. OK? Et c'est parce que ils ont négligé cet enseignement-là, d'accord? C'est parce qu'ils n'ont pas regardé l'ombre, OK? Eh bien, qu'ils ont une mauvaise vision de ce qu'est la réalité, d'accord? Si vous regardez mon ombre, vous devez vous attendre à un être humain et à un homme. Et pas un éléphant, pas une voiture, pas un vélo, non. Et là encore, il se pourrait qu'il y ait de ceux qui ne soient pas d'accord avec cet enseignement de la Bible, d'accord? Qui est pourtant clair, d'accord? Mais que ces personnes soient d'accord avec le don de prophétie qui a été manifesté dans le ministère de N.G. White. Alors, pour ces personnes, j'aimerais que nous considérions ce que déclare la messagère. Dans la tragédie des siècles, à la page 431, paragraphe 3. L'immolation de l'agneau pascal préfigurait la mort du Sauveur. OK? Saint Paul le dit. Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, verset 7. La gerbe des prémices agitées devant l'Éternel au temps de la Pâque était un type de la résurrection de Christ. En effet, en parlant de la résurrection du Seigneur et de tous les élus, Paul écrit « tous revivront en Christ. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Comme la gerbe agitée représentait les premières céréales cueillies avant la moisson, Jésus est les prémices de l'immortelle moisson des rachetés qui sera introduite dans les greniers célestes au grand jour de la résurrection. Donc, Ellen White confirme ce que nous venons de voir, en fait, dans la Bible. OK? Et plus loin, elle déclara ces types s'accomplir non seulement quant à l'événement, mais aussi quant au temps. Au 14e jour du premier mois juif, qui était la date immuable où, depuis 15 longs siècles, l'agneau pascal était immolé, Jésus, après avoir participé à la Pâque avec ses disciples, institua le symbole qu'il destinait à commémorer sa mort en sa qualité d'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En cette même nuit, Jésus était saisi par des mains brutales et conduit au supplice de la croix. Enfin, en sa qualité d'antitype de la première gerbe, comme prémisse de ceux qui sont morts, notre Seigneur fut ressuscité le troisième jour. C'était une représentation de tous les justes qui ressusciteront lorsque le corps de leur humiliation sera rendu semblable au corps de sa gloire. Là, elle confirme ce que nous avons vu dans la Bible et elle repasse une couche sur ce qu'elle a dit précédemment, puisque bien évidemment, c'est dans le même chapitre, le même livre. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu que nous nous considérions ce passage, c'est que elle dit que ces types se sont accomplis non seulement quant à l'événement, mais aussi quant au temps. Les événements ont été accomplis, d'accord ? Immolation, mort, résurrection, mais le temps aussi, mes amis. Et j'aimerais que nous gardions bien ça à l'esprit. Il est extrêmement important pour nous, croyants des derniers jours, de comprendre que les types se sont accomplis non seulement quant à l'événement, mais aussi quant au temps. Parce que mes amis, s'il n'y a pas un accomplissement de l'événement et du temps dans les fêtes du printemps qui ont eu lieu au début de l'ère chrétienne, on ne peut pas s'attendre, on ne devrait pas s'attendre en fait à un accomplissement des événements au temps marqué à la fin de l'ère chrétienne en fait, qui sont illustrés par les fêtes de l'automne. Et c'est là l'intérêt qu'il y a à comprendre ça, mes amis. Voilà l'intérêt qu'il y a à bien comprendre cette prophétie des trois jours et trois nuits. J'aimerais laisser l'esprit de prophétie nous dire la chose suivante. Et avant de se faire, voici un graphique qui illustre la véritable doctrine, en fait, d'accord ? Et ce que nous venons d'enseigner ici, d'accord ? Comme vous pouvez le voir, eh bien, Jésus a bel et bien été crucifié le 14e jour du premier mois, donc le Nissan 14. Il était dans la tombe, d'accord, durant Nissan 15, ok, et il est ressuscité en Nissan 16, d'accord. Et je laisse cela afficher pendant quelques secondes. Cela sera également affiché dans l'enregistrement vidéo pour que vous puissiez reprendre cela à tête reposée et voir les différents événements, en fait. D'accord? Considérons conquérant pacifique. À la page 25, paragraphe 2. Quand le Christ fut crucifié, ils crurent que tout était perdu. Il leur avait pourtant dit ouvertement qu'il ressusciterait le troisième jour. Mais les disciples se demandaient avec anxiété ce qu'il avait voulu dire. ce manque de compréhension les jeta, au moment de sa mort, dans un profond désespoir. Ils étaient amèrement désappointés. Leur foi ne pénétrait pas au-delà de l'ombre jetée par Satan devant leur horizon. Tout pour eux était vague et mystérieux. S'ils avaient cru aux paroles du Sauveur, quelle douleur leur eût été épargnée. Vous vous rendez compte? La messagère dit que leur foi ne pénétrait pas au-delà de l'ombre jetée par qui? Par Satan. Satan les avait conduits à ne pas comprendre les paroles que Jésus avait dit qui étaient pourtant claires.
Pourtant, ils avaient le Sauveur avec eux.
Mais oui! Mais pourquoi? Pour qu'ils soient désappointés. D'accord? Alors, très précisément, Dieu a permis que cela ait lieu. Mais en fait, Satan voulait ébranler leur foi. D'accord? Et c'est lui qui a fait ça. Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Dieu a permis que ça ait lieu, mais c'est Satan qui est autour de ça, mes amis. Les partisans de la théorie de la crucifixion du mercredi, comme je l'ai dit au départ, sont en grand nombre des observateurs du sabbat. Et ils affirment que cette théorie est un argument contre la sanctification du dimanche. Mes amis, nous devons rejeter la sanctification du dimanche pour les bonnes raisons. Oui. Mais voyez-vous, sous couvert de vouloir défendre l'observation du sabbat, du septième jour, Satan conduit de nombreux observateurs du septième jour à rejeter le cœur de la vérité présente, c'est-à-dire le sanctuaire. Et c'est là, mes amis, et c'est là que je ferai une jonction dans cette présentation avec ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, on a vu que Satan conduit à avoir une mauvaise compréhension, en fait, des types, d'accord, et aussi des enseignements de l'apôtre Paul en hébreu, de manière à ce que nous ne puissions pas être des disciples de Jésus, qui suivent Jésus par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, d'accord, de manière à ce que nous n'ayons pas une foi, de manière à ce que nous n'exercions pas une foi dans la vérité présente, une foi vivante, d'accord. Mais mes amis, cette théorie-là, de 3 jours, 3 nuits, qui sont en fait 72 heures, d'accord? Cette théorie de la crucifixion du mercredi, d'accord? Et mes amis, tous ceux qui y adhèrent, étant donné qu'ils sont égarés, en fait, quant au temps des événements qui avaient lieu au début du ministère, au début de l'ère chrétienne, eh bien, ils sont aussi égarés quant au temps des événements qui doivent avoir lieu à la fin de l'ère chrétienne. C'est pour cela que, en fait, ceux qui adhèrent à cette vision-là, d'accord, à cette théorie-là, logiquement, ils seront amenés pas à pas, en fait, à, s'ils sont logiques avec eux-mêmes, à répudier 1844, la compréhension historique que nous avons des 2300 soirs et matins, et en fait, la doctrine du jugement investigatif et de l'expiation finale, en fait, telle que nous l'avons, d'accord, telle que la Bible nous l'enseigne très clairement. Parce que du moment que Satan arrive, je vais vous le dire comme suit. Satan les conduit à rejeter le cœur de la vérité présente, le sanctuaire. En effet, étant égarés quant à l'accomplissement des prophéties relatives au début de l'ère chrétienne, ils sont également égarés quant à l'accomplissement des prophéties se rapportant à la fin de l'ère chrétienne. Bien-aimés, Osée 4, verset 6 nous dit « Mon peuple est détruit faute de connaissance. » Vous avez... Je pense, je crois, que certains de ceux qui seront perdus auront une bonne connaissance de cela. À savoir que Il y en aura qui ont une bonne connaissance de cette prophétie-là, mais qui seront perdus. D'accord? Parce que ce n'est pas ça qui va vous sauver, en fait, en soi. D'accord? Mais mes amis, je pense que ceux qui se préparent, et j'en suis sûr en réalité, ceux qui se préparent à, pour le temps de crise qui est devant nous, d'accord, doivent avoir une bonne connaissance de ce sujet. Ok? Car si Satan arrive à nous aveugler quant à l'accomplissement des prophéties relatives au début de l'ère chrétienne, il est alors sûr de pouvoir nous aveugler quant à l'accomplissement des prophéties se rapportant à la fin de l'ère chrétienne. Et lorsqu'il arrive à faire ça, mes amis, on ne peut plus occuper le poste que Dieu nous assigne, comme le dit Ellen White. On ne peut plus occuper le poste que Dieu nous assigne. On ne peut pas exercer la foi, ok, pour le temps présent. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que nous devons véritablement faire attention aux raisons que nous admettons, que nous acceptons pour accepter une vérité et pour rejeter l'erreur. Les Juifs observaient le sabbat pour les mauvaises raisons. Parce qu'ils observaient le sabbat pour se justifier, en fait. D'accord? Il observait, oui, ok. Mais pour les mauvaises raisons.
Ils n'ont pas accepté Jésus.
Mes amis, nous devons observer le sabbat pour les bonnes raisons.
Bien sûr.
Nous devons observer le sabbat pour les bonnes raisons. Et de la même manière, nous devons rejeter l'erreur pour les bonnes raisons. Quand une erreur arrive, ou, je vais le dire ainsi, les choses que nous n'acceptons pas, les théories, les doctrines que nous n'acceptons pas, est-ce que nous savons réellement pourquoi nous ne les acceptons pas? Parce que je vais vous dire quelque chose. Si nous ne savons pas pourquoi nous rejetons quelque chose, mes amis, Satan peut alors nous glisser autre chose. Puisqu'on ne sait pas pourquoi. On accepte, on rejette. Vous comprenez?
C'est pour ça qu'on est tout le temps dans l'égarement.
C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'on s'attend tout le temps dans l'égarement. Si on ne fait pas attention, si on n'écoute pas la voix de Jésus nous parler, on ne prend pas le temps de bien écouter, si on se laisse aveugler par diverses choses, eh bien on sera désappointé, mes amis. On sera désappointé. Et en 1844, d'accord, si je ne me trompe pas, il y a eu une division par 10, d'accord. Au final, ils étaient 50, mais il y en avait 10 fois plus à la base. D'accord? Et lorsque le temps est passé, c'est 50 okay, croyants qui sont restés et qui n'ont pas répudié, qui n'ont pas renié, d'accord, leur foi dans la compréhension des prophéties qu'ils avaient. D'accord?
50 000, je crois.
C'est ça.
50 000.
C'est ça.
Il y a 50 seulement qui
restent. 50.
50 sur 50.
Ils ont été désappointés? Mais ils n'ont pas abandonné, d'accord? Mes amis, ce genre de doctrine-là, Dieu permet qu'elle souffle. Dieu permet que Satan le fasse souffler sur nous pour cribler, en fait. Pour cribler, tout simplement. OK? Mais nous devons ne pas renier, en fait, les enseignements que la Bible nous donne concernant les prophéties ainsi que le temps durant lequel elles se sont accomplies, que ce soit au début de l'ère chrétienne ou que ce soit à la fin de l'ère chrétienne. Puisse Dieu nous bénir et puisse Dieu nous aider à accepter la vérité pour les bonnes raisons et à rejeter l'erreur pour les bonnes raisons. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69.